Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Tournez avec moi à l'évangile de Matthieu, chapitre 14. L'évangile de Matthieu, chapitre 14. Et c'est une joie de vous accueillir ce matin et nous allons avoir les deux dernières parties. Regardons ensemble nos deux dernières parties de la série « N'aie pas peur, comment vaincre les craintes, angoisses et phobies modernes ». Et nous, je veux vous saluer, la bienvenue d'accueillir tous ceux qui sont ici, c'est ma joie d'accueillir tous ceux qui sont ici, mais aussi ceux qui nous écoutent par le truchement de la radio et de par l'Internet. C'est vraiment plusieurs dizaines de milliers de personnes. Il y a plusieurs émissions de radio qui retransmettent ces messages, même dans d'autres pays. Et vous m'entendez régulièrement saluer des gens de différents pays parce qu'on reçoit beaucoup de courriers. Et ce matin, je veux saluer un groupe en particulier, une nation en particulier, parce que mardi soir, c'est toujours émouvant de voir l'impact des messages des gens partout à travers la francophonie qui écoutent les messages comme s'ils étaient assis ici à chaque semaine, comme si c'était leur église. Et mardi, qui vient juste de passer, j'étais sur New York à l'église de Times Square Church. J'apportais la parole à l'église de David Wilkerson. J'étais avec le pasteur Carter Conlin. Et juste avant la réunion, je suis arrivé quelques minutes avant la réunion, il y avait une délégation de Côte d'Ivoire qui était là, des pasteurs, leurs épouses, des leaders et un surintendant d'un mouvement d'église là-bas. Et alors qu'on est arrivé, lorsque je suis arrivé dans la salle, la petite salle avant la réunion, ils étaient tellement heureux. Allô, pasteur Claude, ça ne se peut pas, vous êtes ici à New York. Et il était vraiment comme si il me parlait des messages, la série de messages. Il m'expliquait comment la série sur la faveur de Dieu en début d'année a été reprise dans plusieurs églises en Côte d'Ivoire. Puis c'est bon, on entend les messages sur Internet, etc., etc. Et il était tellement content, j'étais content de le voir si content. Est-ce que vous me suivez? Il était juste béni de les voir. Et juste avant d'embarquer sur l'estrade, le pasteur Carter me dit, écoute, on collabore avec ce mouvement-là pour un projet médical, une clinique médicale en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et ils ont fait des dons là-bas. Et le pasteur était venu, le surintendant était venu pour dire merci, pour remercier l'Église pour leur générosité. Et il me dit, ne parle pas anglais, est-ce qu'il pourrait parler en français, puis tu vas le traduire en anglais dans ses remerciements. Je lui dis, bien sûr, ça me fait plaisir. Et moi, j'étais là pour, lorsqu'ils l'ont présenté, il est venu, puis je pensais qu'il était pour dire merci pour la clinique médicale, etc., etc. Et on arrive en avant devant toute l'Église qui est bondée le mardi soir. On arrive là, puis commence à me prendre le bras super serré, puis il me colle comme ça, puis il dit, commence à dire aux gens, incroyable, pasteur Claude, ici, à côté de moi. Puis moi, il faut que je traduise ça en anglais, alors j'essaie de traduire ça. Et là, il dit, vous savez, ça fait des années qu'on essaye de l'avoir, on essaye de le pogner, on essaye de l'inviter, on n'est jamais capable. Mais là, je l'ai. Et là, il dit, je t'ai et je ne te lâcherai pas parce que là, je t'ai saisi. Et puis, ce matin, voulez-vous m'aider? On va ensemble applaudir fort et saluer nos amis en Côte d'Ivoire qui vont entendre ce message. Abidjan, San Pedro, Boaké, Nord-Sud-Est-Ouest. Dans le message de ce matin, nous allons, il reste deux messages à la série. Et ce matin, nous allons regarder à Matthieu la deuxième partie de la semaine dernière avec un thème spécifique sur comment vaincre la peur de se donner, de servir, de faire confiance à Dieu, de répondre à l'appel de Dieu. Et c'est des gens qui peuvent être ici ce matin qui ont besoin, qui vont entendre ce message par la radio ou l'Internet, qui ont besoin. Il y a une peur, il y a des choses qui sont arrivées qui font que vous avez peur de revenir, peur de vous donner à nouveau, peur de servir le Seigneur, de répondre à son appel. Et nous allons regarder ce message ce matin, la semaine prochaine, le dimanche, vivre l'Église. Et le dimanche suivant, le dimanche 5 juillet, ça va être la dernière partie de la série. Et je vais apporter un message sur la peur de l'échec. Comment vaincre la peur de l'échec. Et j'ai cette idée et je vais vous l'annoncer à l'avance. Dimanche, le 5 juillet, sur la peur de l'échec. J'ai commandé, puis on a trouvé une place qui va nous la faire avoir. Je veux prêcher le message. Il va y avoir au début du message, je ne suis pas surpris, lorsque vous allez arriver le 5 juillet, il va y avoir une poutre de gymnastique. Pareil comme aux Jeux olympiques, il va y avoir une poutre de gymnastique ici en avant. Et je veux prêcher le message sur la peur de l'échec, une partie du message en marchant la poutre. Je vais marcher la poutre. Tournez-vous à la personne à côté de vous, dites-lui, j'ai hâte de voir ça. D'autres se disent déjà, il y a vraiment besoin de vacances, le gars. Alors, je crois que c'est un moment idéal pour un moment idéal. Puis là, si jamais on a une assistance record ce matin-là, je vais vraiment être découragé de dire, pour la poutre, pour le voir se casser la sur la poutre, on vient. Si on veut voir ça, et j'invite mes amis. Mais je crois que c'est une illustration extraordinaire sur la peur de l'échec. Alors, manquez pas ce dimanche-là, dans deux semaines, sur la fin de cette série, comment vaincre la peur de l'échec. Et ce matin, nous allons regarder ensemble dans la parole de Dieu. Je vais vous inviter à vous lever avec moi pour la lecture de la parole de Dieu, parce qu'il y a un élément de... En se levant, on prend notre Bible dans nos mains, et en se levant, il y a un élément de respect. Un élément de respect pour la parole de Dieu. Et je dirais aussi ceci à tous les gens qui viennent à l'église à chaque semaine. Je voudrais vous inviter, vous défier à ce que ça soit quelque chose qui soit réglé dans vos cœurs et dans vos vies. Prenez votre Bible, venez à l'église avec une Bible à chaque dimanche pour voir vous-même, même si les textes apparaissent à l'écran. Arrivez avec votre Bible, avec cette soif de lire la parole. Si vous n'avez pas de Bible, la librairie, la bibliothèque est là, il y a des Bibles qui sont là disponibles pour vous. C'est un geste de respect, mais aussi d'appréciation. Vous savez, pas il y a 500 ans et pas dans une période lointaine du passé, en ce moment, il y a des endroits du monde où des millions de chrétiens n'ont pas accès à avoir une Bible dans leurs mains. Ils n'ont pas la liberté, n'ont pas les sous pour s'en acheter une, n'ont pas la liberté. Il y a des pays, en ce moment, comme en Chine, où il est illégal d'avoir une Bible dans ta maison, où tu peux, il y en a d'entre vous, vous découvrez ça, mais en ce moment, en 2009, en Chine, il y a des gens qui se font mettre sous arrestation parce qu'ils ont du matériel chrétien. Il y a des églises maison qui ont seulement une Bible pour toute l'église, pour les 50 personnes. Il y a des gens, des chrétiens qui ont passé leur vie, des années de vie chrétienne avec seulement un évangile de Jean ou quelques pages d'une Bible. Et nous voilà, ici, nous, au Québec, avec la liberté d'ouvrir la parole de Dieu. Est-ce que je peux vous défier semaine sans condamnation, mais juste un défi du cœur, semaine après semaine, comme vous n'oubliez jamais de mettre vos souliers avant de venir à l'église, vous n'oubliez jamais, il n'y a aucune dame ici ce matin qui a oublié de se maquiller avant de venir à l'église, n'oubliez pas votre Bible, prenez-la et arrivez avec fierté. Puis là, je voudrais que vous applaudissiez, mais je sais que vous avez une Bible dans les mains, alors on va la lire plutôt ensemble. Matthieu, je ne sais pas comment vous avez fait pour applaudir avec une Bible dans les mains, c'est... Quelle église? Matthieu, chapitre 14. Nous allons regarder ensemble la quatre décisions. Trois décisions. On va continuer dans le prochain message sur la peur de l'échec. Mais trois décisions ensemble pour vaincre la peur de s'engager. Elles sont trouvées dans ce texte de multiplication, dans Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Et quand il eut sorti de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Le verset 21 nous dit, « Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. » Et le verset 27 nous dit, « Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Et Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Seigneur, nous nous offrons à toi aujourd'hui, et comme il y a 2000 ans, nous avons en nous cette tendance, cette humanité, cet esprit de limite, où nous disons, nous n'avons que, et où nos yeux sont remplis de ce que nous n'avons pas, de ce qui nous manque, de ce que nous avons en petite quantité ou pas du tout, de ce que nous avons perdu et que nous croyons ne pas avoir. Mais 2000 ans plus tard, toi, tu dis encore aujourd'hui, amenez-moi ce que vous avez. Amenez-moi vos pains, amenez-moi vos poissons, amenez-moi votre petitesse, amène-moi le temps que tu as, les talents que tu as, les limites que tu as, amène-moi tes blessures, amène-moi ton passé, amène-moi tout ce que tu as. Et alors que nous l'amenons à toi, Seigneur, encore aujourd'hui, tu nous dis, n'aie pas peur. Et même s'il y a des flots, et même s'il y a des vagues autour de nous, tu nous appelles à sortir de la barque de l'indifférence, la barque de l'incrédulité, pour entendre ta voix et marcher vers toi. Et ta grâce est telle, et ton amour et ta puissance est telle que même mon Dieu, lorsque nous coulons au milieu des flots, ta main s'étend et tu nous sors, tu nous dis n'aie pas peur, et tu es encore le Dieu qui nous rend capables de choses qu'on ne pourrait pas par nous-mêmes. Alors je prie aujourd'hui, Seigneur, que la conviction de ton Saint-Esprit fortifie et libère, et que des centaines puissent répondre à l'appel de te servir dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit « Amen ». Et j'aimerais que vous puissiez déposer votre Bible et applaudir avec moi ce que le Seigneur peut faire à travers nous. Voulez-vous applaudir avec moi ce que Dieu peut faire à travers nous tous? Et avant de vous asseoir, il y en a qui sont déjà rendus, mais avant de vous asseoir, serrez la main à deux ou trois personnes et dites-leur « Dieu t'appelle à marcher sur les eaux ». Dites ça à deux ou trois personnes autour de vous avant de prendre place. Quatre décisions. On va en prendre trois, on va en couvrir trois ensemble ce matin. Trois décisions et attitudes praticables à chaque jour qui deviennent un mode de vie qui va nous permettre de vaincre la peur. Vaincre la peur de se donner, de répondre à l'appel de Dieu, de marcher avec Dieu, de servir Dieu. Nous avons vu ensemble la semaine dernière et complétons cette semaine la première décision. Je vais vaincre la peur lorsque je suis résolu, la diapo 6, lorsque je suis résolu de ne pas me retirer à cause de la douleur. Nous avons vu que notre texte débute avec des mots extrêmement importants, à cette nouvelle. Nous avons vu que Jésus a été ému de compassion et s'est donné à servir et à servir Dieu, à servir son Père, alors qu'il avait comme arrière-plan une nouvelle de tristesse, une nouvelle de deuil. Les versets précédents qu'on a élaborés en détail la semaine dernière nous montre qu'à cette nouvelle, c'était la mort cruelle, injuste, inexplicable de Jean-Baptiste. Que la toile de fond par laquelle Jésus a répondu à l'appel et le modèle qu'il nous donne, c'est qu'encore 2000 ans plus tard, l'œuvre de Dieu avance et s'accomplit par des hommes et des femmes qui décident et qui prennent une décision quotidienne de refuser de laisser la peine et les mauvaises nouvelles, de laisser la douleur les garder hors ou les faire en sorte qu'ils se retirent. Si vous vous êtes retiré à cause de la douleur, doucement, tendrement, avec amour, l'appel de Dieu retentit dans votre cœur et vous dit ce matin, reviens à moi parce qu'il y a un secret. C'est que le royaume de Dieu s'accomplit et les plus grands miracles prennent place lorsque des gens qui, même s'ils souffrent, se donnent à Dieu et répondent à Dieu. Et le secret est qu'alors que vous le faites, il y a une guérison pour vous, pour nous, alors que nous le servons malgré la douleur. La première décision, la première attitude et décision de la personne qui va vaincre la peur, de se donner, de servir, de faire confiance à nouveau, de répondre à l'appel de Dieu, c'est cette dimension de « je suis résolu de ne pas me retirer à cause de la douleur ». Je parle au papa en particulier à quelques endroits dans le message de ce matin, le message est pour tous bien sûr, mais je parle au père en particulier, que quel que soit l'arrière-plan que nous avons, quels que soient les moments que l'on puisse traverser, quel que soit ce que je traverse en ce moment, il y a toujours des moments dans la vie d'un père où il y a une tentation de juste se retirer à cause de mauvaises nouvelles, de choses qui prennent place. Et dans la vie d'un père, il y a plusieurs moments. Il y a des moments, dans la vie d'un papa, il y a des moments parfaits. Dans la vie d'un papa, il y a des moments de persévérance. Et dans la vie d'un papa, il y a des moments de peine et de peur. Dans la vie d'un papa, il y a des moments parfaits. Les femmes ont aussi ces pensées-là et ce cœur-là, mais les gars savent, les gars comprennent qu'il y a quelque chose dans le cœur d'un homme qui vit pour des moments hot, pour des moments parfaits. Les gars, quel que soit leur âge, quel que soit s'ils sont jeunes et vigoureux ou moins jeunes et moins vigoureux, quel que soit leur âge, un gars veut être un héros. Un gars voudrait avoir le knockout. Un gars voudrait sauver le show. Un gars voudrait, toujours dans sa tête, cherche le moment où il va sortir l'enfant du building enflammé et où la foule va applaudir en scandant son nom. Le gars veut marquer le but en septième match en supplémentaire. Le gars, il veut se faire dire t'es bon. Le gars, c'est pour ça, le gars, il veut faire le trou d'un coup. C'est pour ça qu'il y a des gars qui jouent au golf pendant 30 ans, parce qu'un jour, il arrive le moment, n'importe quel moment, elle va aller dans le trou, puis toutes mes chums vont se mettre à dire « c'est toi le meilleur », puis ils ont des scènes où ils sont portés sur les épaules de leurs camarades, scandant leur nom, que tous les gars disent « yes, that's right ». Mesdames et messieurs, il y a un moment comme ça, il y a un d'entre nous dans la confrérie des hommes qui a vécu ce moment-là, une photo qui apparaît à l'écran, au tournoi de golf ce lundi, au tournoi de golf de l'ITF, M. Raymond Paul à droite, après 30 ans de golf, a vécu un moment de papa parfait. Il est dans une saison en ce moment, un moment parfait. Son fils est là dans l'église avec lui, sa fille aussi. Puis il est au tournoi de golf avec ses amis où il défend son trophée parce qu'il a gagné l'année passée. Et sur le 17e trou, frappe la balle, 135 verges, un fer, je sais pas quoi. Et la balle roule dans le trou, disparaît. Et c'est un moment de papa parfait. Toutes ces chums disent « Waouh, ils prennent dans leurs bras, Raymond, t'es le meilleur, les gars ne viennent pas, Pasteur Mark est jaloux, c'est un moment parfait! » Raymond Paul est ici ce matin, voulez-vous applaudir un papa qui a eu un moment parfait? Ça donne espoir à chacun d'entre nous. Tournez-vous vers un golfeur à côté de vous et dites ça. Moi aussi je suis capable, dites ça à la personne près de vous. À la vie d'un père, il y a des moments parfaits. Il y a des moments qui nous appellent à la persévérance. Un petit peu moins parfait. Et j'étais reconnaissant à Raymond Paul qui est ici ce matin pour son humilité et sa franchise. Parce que moi, j'ai compté à la première réunion ce moment de golf parfait. Puis il m'a dit, qu'est-ce qui est arrivé après? J'ai fait un trou d'un coup la première fois de ma vie. Puis il dit, tout de suite après, j'étais tellement sur un high. J'étais tellement nerveux que j'ai frappé à balle et j'ai frappé une maison. J'ai frappé à balle sur une maison. Alors, tout le monde sait ici que les moments parfaits passent. Et reviennent et redeviennent rapidement des moments de persévérance. J'ai entendu le témoignage hier d'un papa qui papa chrétien, puis il voulait vraiment vivre. Et comme nous tous les pères, on veut voir nos fils et nos filles vivre des moments intenses avec Dieu, on veut leur communiquer notre foi. Et ce papa, un petit garçon, 6-7 ans, et puis il y a toutes sortes de choses d'investissement, du temps passé avec lui, tout ça. Dans la dernière année, il a pris des résolutions de commencer à prier le père pour sa famille, puis il ne priait pas pour être vu de ses enfants, il priait pour eux. Mais le petit gars voyait son père prier, puis tout ça, puis un matin, après avoir vu son père prier, papa donne un bec à maman, puis s'en va dans l'auto, puis s'en va l'amener à l'école. Puis alors que le petit gars est en arrière, tout à coup, le petit gars pose une question à son père. Il dit, « Papa, est-ce que Dieu peut me donner un autre cœur? » Puis là, j'ai entendu deux madames, ils ont fait, « Oh! Oh, oh. » C'est ça, c'est le moment. Là, le père s'est mis, « Lève-le, c'est mon moment. » Là, il est touché, là, c'est le moment d'osmose. Là. Je vais lui parler des choses de Dieu. Mon fils va un autre cœur. Puis il essaie de pas trop s'énerver, mais il est tellement touché, toute l'apothéose, le résultat de toutes mes prières. Puis il dit à son garçon, il dit, pourquoi tu poses cette question-là? Pourquoi tu demandes si Dieu peut donner un autre cœur? Quelle sorte d'autre cœur tu voudrais avoir? Pensant qu'il va dire le cœur, je sais pas, la réponse spirituelle. Puis le petit gars dit, moi j'aimerais vraiment ça, papa. J'aimerais ça avoir le cœur d'un chien, je pourrais courir plus vite. Il y a des moments parfaits, mais il y a des moments qui appellent à la persévérance. Je peux vous dire, amen. Pas fini encore, pas tout à fait la révélation. Dans la vie d'un père, comme d'un homme et femme dans ce lieu, dans la vie de chacun d'entre nous, il y a des moments parfaits. Il y a des moments qui nous appellent à la persévérance, à continuer. Mais il y a aussi des moments de peine et des moments de peur. Il y a des moments où on se retrouve dans une barque d'incrédulité, une barque de douleur, une barque de terreur. Il se passe quelque chose qui fait tellement peur. Et tu as la voix de Dieu qui se fait entendre, qui dit, n'aie pas peur. Viens. Viens vers moi. Fais-moi confiance. Viens vers moi. Il y a des moments de peur dans la vie des hommes, mais c'est souvent très difficile. Parce que souvent, l'homme n'est pas capable de les exprimer, ne se les admet même pas à lui-même. Et parfois, si lui en est conscient, il n'a aucune capacité de parler à d'autres. Ça ne paraît pas dans son visage. Il y a un verset que je méditais cette semaine, dans la Bible qui nous parle, dans 2 Samuel 18, qui nous parle d'Absalom. Et qui dit d'Absalom, c'est entre vous qui connaissez son histoire, Absalom a fini ses jours, c'est un verset très triste, parce que c'est le chapitre qui nous décrit sa mort, comment il est mort, une mort violente, une mort tragique, une mort dans la honte, une mort où il a complètement renié tout ce que Dieu l'avait appelé à être et à faire. Et une mort qui a fait honte, non seulement à lui, mais à tout son entourage. Et on lit dans 2 Samuel 18, qu'au verset 17, qu'ils prirent Absalom et le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt, et mirent sur lui un très grand monceau de pierres. Ils l'ont couvert de pierres. Et tout Israël s'enfuit chacun dans sa tente. Il y avait tellement honte qu'après l'avoir couvert, le peuple est allé se cacher. C'était tellement un jour triste. Et on nous dit cette particularité de son vivant. Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi. Le roi, c'est son père, dans la vallée de son père. Un monument pour lui-même dans la vallée de son père. car il disait, je n'ai pas de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. Et il donna son propre nom au monument qu'on appelle encore aujourd'hui le monument d'Absalom. Suivez-moi bien. Déçu et blessé par ce qu'il percevait comme étant son échec comme père et profondément meurtri par les traumatismes de sa relation avec son père, Absalom s'est bâti un monument à lui-même dans la vallée du Père. Je n'ai pas le temps ici ce matin, mais c'est un enseignement fascinant et à la fois extrêmement révélateur de voir toutes les carences qu'il y avait et les traumatismes dans la vie d'Absalom qui ont été causés par la mauvaise relation avec son père. Et c'est assez significatif que dans la vallée du père qu'il l'avait ignoré, du père qui était le roi d'Israël, mais qui n'avait pas de temps pour son fils, c'est dans cette vallée-là qu'Absalom a fait un monument pour lui-même. Et dans sa perception d'échec, dans la perception d'échec dans son cas, dans son incapacité de communiquer à ses fils, à une génération, Absalom s'est bâti un monument pour lui-même. Un monument, et alors que je disais cela et méditais, je pensais à beaucoup, beaucoup d'hommes, des milliers, qui vont entendre le message ce matin et qui vont l'entendre par l'Internet et par la radio. Des milliers d'hommes qui sont déçus. Des milliers d'hommes qui ont été blessés, qui ont été déçus pour leur manque de capacité d'avoir communiqué l'Évangile à leurs enfants ou d'avoir manqué dans leur communication, dans leur postérité. Des hommes qui vivent des combats, des hommes qui ont peur. Il y a beaucoup de raisons d'avoir peur pour un homme en 2009. Il ne le montrera pas, mais il a peur de perdre son emploi, il a peur d'être un échec, il a peur de ne pas pouvoir à sa famille, il a peur, il ne comprend pas pourquoi les enfants ne marchent pas dans les voies que lui voudrait tellement pour leur bien. Peur parfois des hommes qui sont ici, peur pour leur mariage, peur pour leur avenir, peur que le combat secret qui dévore ton âme devienne public, peur de perdre le combat, peur de te décevoir et de décevoir les autres. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont, par leurs blessures et leurs sentiments d'échec, face à leur incapacité d'influence et même face à leurs enfants qui se bâtissent un monument pour eux-mêmes, qui décident de dire « Laissez-moi tranquille, je veux aller à l'ouvrage, je veux lire mon journal, je veux regarder ma TV de 50 pouces avec mes 300 postes, je veux qu'on me laisse tranquille, je veux jouer avec mes bâtons de golf, je veux qu'on me laisse tranquille, je veux être dans mon univers et hors de ce lieu, je veux aller au 5 à 7, je veux aller avec mes chums, je veux faire mes voyages de pêche, je veux faire mes affaires, je veux qu'on me laisse tranquille. » Et souvent, la racine est une douleur, la racine est un sentiment d'échec qui ne s'en met même pas à lui-même. Et je veux dire à tous les papas qui sont dans ce lieu, lève les yeux, regarde-moi, écoute-moi ce matin. Malgré la mauvaise nouvelle, malgré ce qui te semble comme un échec, la voix de Dieu t'appelle et te dit, reste pas dans la barque. Je t'appelle, viens vers moi. Aie pas peur. Et il y a une bénédiction, il y a une percée, il y a une tempête qui se calme, et il y a une guérison pour ceux qui, malgré la douleur, continuent à mettre leur confiance en Dieu et à le servir. Et que tout le monde qui l'ont vécu applaudit ce matin et dit, Seigneur, Seigneur, je ne me retirerai pas. Et partout dans cette église, je pourrais traverser allée après allée de cette église et vous donner les témoignages d'hommes et de femmes, de papa, de maman qui a eu des périodes dans leur vie où face comme Absalom, où face à leur héritage spirituel, où face à leurs enfants, où face à leur situation de vie, se sont trouvés dans un tel état d'échec que tout en eux criait « Retire-toi !» mais qui ont persévéré, qui ont continué à honorer et à servir. On va regarder un clip témoignage ce matin d'un jeune homme qui est ici ce matin de notre église qui s'appelle Jonathan. Mais c'est surtout un clip témoignage à son père et à sa mère. Des hommes, un homme et une femme qui ont été retirés d'un passé tellement difficile par la main de Dieu et qu'une fois qu'ils étaient chrétiens, se sont trouvés des dimanches comme ce matin, assis dans l'église avec le cœur torturé de peur. Qu'est-ce qui va arriver à mon fils? Leur fils était un toxicomane, leur fils était suicidaire, leur fils a passé un cheveu de la mort et qui aurait eu toutes les raisons de se recroqueviller sur eux-mêmes et de dire « C'est fini, je veux juste qu'on me laisse tranquille. » Mais Jésus, alors qu'il avait cette nouvelle de tristesse en arrière-plan, a continué à pousser, à percer. Et chaque homme et femme ce matin, prends courage. Alors que tu regardes ce témoignage, sache que le Dieu qui a répondu aux prières et qui a touché ce jeune homme Jonathan et qui a donné un fruit extraordinaire au papa et à la maman qui a percé et refusé de se retirer à cause de la douleur, ce Dieu-là, il est là pour toi aujourd'hui, il est là pour ta famille, il est là pour tes enfants et nous applaudissons le Dieu fidèle qui est capable de calmer les tempêtes alors qu'il nous appelle à marcher sur les eaux. On regarde ensemble.
Mon nom est Jonathan Simard et voici mon histoire. J'ai grandi dans une famille considérée dysfonctionnelle. Un père alcoolique, une mère alcoolique polytoxicomane. À 9 ans, on quitte le Saguenay pour déménager de la rive sud de Montréal. C'est là que mes problèmes commencent. Je ne voulais pas quitter mes amis du Saguenay et j'en voulais à mes parents. J'en voulais à la vie en général. Dès l'âge de 10 ans, je commence à toucher à des drogues douces. Je vends de la drogue pour payer ma drogue, puis en plus, je veux me geler pour oublier que je vais à l'école. Un jour, en allant à l'école, je passais par le pont des trains. Puis, avant de partir, j'ai dit à ma mère, je vais me pitcher en bas du pont. Déjà, dans mon entourage, 3 de mes amis sont décédés du suicide. Ils sont passés à l'acte. Au-delà d'une manchette ou d'une statistique, le suicide devenait de plus en plus une solution pour moi. J'avais honte de qui j'étais, honte de mes comportements. Je pense même que la honte alimentait mes pensées suicidaires.
Je m'appelle Kristen Holland, je suis la maman de Jonathan. Alcoolique, polytoxicomane, extérieurement, tout semble bien aller, mais à l'intérieur, c'est le chaos total. Puis un jour, quelqu'un me parle de Dieu, de Jésus et de l'espoir dans le message de l'Évangile. En acceptant Jésus comme mon Sauveur et Seigneur, ma vie change complètement. Après une thérapie, j'arrête toute consommation d'alcool et de médicaments. Et c'est à ce moment-là que je suis confrontée à ce que Jonathan et sa sœur vivent. Je ne réalise pas toutes les conséquences et le drame de Jonathan, et surtout, je pense jamais qu'il aurait pu envisager le suicide.
Avec les années, ma consommation de drogue puis mes actes de délinquance augmentent. Extérieurement, à 21 ans, j'ai l'air d'un gars super cool qui a tout. Mais à l'intérieur, je suis complètement vide. Un soir, à la halte routière, j'ai tout. Ma caisse de 24, mes cigarettes, mes amis. Tout le monde a du fun, sauf moi. Je suis profondément malheureux. Je prends une décision. Je veux quitter la Terre. En début de soirée, j'arrive à la maison puis j'embrasse ma mère. Je caresse les cheveux puis je dis bonne nuit à mon père. Je descends à ma chambre. En arrivant dans ma chambre, je barre tout de suite la porte. Je m'assois sur mon lit puis j'ai juste une pensée dans ma tête. Dis-toi donc, t'es bon rien. J'ouvre ma porte de garde-robe. J'attache ma ceinture après la peau. Je la passe autour de mon cou. Je me lance dans le vide. Après, blackout.
On était dans le salon, on entend un gros bruit, on descend à la course, on réussit à ouvrir la chambre et alors la pire vision d'horreur que j'ai jamais vue de toute ma vie m'a paralysée pendant quelques secondes. Mon propre fils, pendu au bout de sa ceinture, le visage complètement bleu, une sorte d'écume à la bouche, ne respirait plus, n'avait plus de pouls, alors que mon mari criait « Mon bébé! Mon bébé! » On a réussi de peine et de misère à le décrocher, à le descendre de là. J'ai appelé le 911 ainsi qu'une chaîne de prière. On a tenté du mieux qu'on le pouvait de le réanimer sans succès et alors les ambulanciers sont finalement arrivés. Les ambulanciers le conduisent à l'hôpital et nous, on suit derrière. Arrivé à l'hôpital, les médecins peuvent pas se prononcer sur sa situation. Est-ce qu'il va survivre? Si oui, est-ce qu'il va avoir des séquelles? On ne sait pas du tout. Pendant toute la nuit, on a veillé Jonathan. Dans la salle d'attente, mon mari s'est endormi de tristesse. Et moi, je pouvais seulement prier, crier vers Dieu. Je trouvais rien d'autre à faire dans ces circonstances. Et au beau milieu de la nuit, les yeux de Jonathan se sont ouverts. Pour la première fois, il m'a regardé droit dans les yeux. Et à ce moment-là, je savais que tout allait bien aller. Jésus était arrivé.
Je me réveille à l'hôpital. Je me rappelle plus de rien. Je suis sûr que j'ai eu un accident d'auto. Un de mes amis rentre dans la chambre en pleurant. Puis il arrête pas de dire « Tu feras plus ça, John. Tu feras plus ça, John. » C'est là que ça m'a frappé. J'ai essayé de te tuer. 3 mois après, je consomme plein de médicaments. J'appelle mes amis puis je leur dis « Les gars, on y va. » Je commence à fumer du crack, de l'héroïne. Des drogues vraiment plus fortes. Je veux mourir à petit feu. Un autre soir de party, c'est presque le même scénario. Je quitte le party en me disant que la vie, c'est plus que ça. J'arrive à la maison. J'entre dans ma chambre. Je m'assois sur mon lit. Et au lieu de prendre ma ceinture, je décide d'enlever mon masque. Je demande pardon à Dieu. Je crie à l'aide et il entend ma prière. Pour la première fois de ma vie, je goûte à la paix. La vraie. Celle que j'ai toujours cherchée. Après une thérapie, j'apprends à développer une relation avec Dieu. Je prends la décision de ne plus vivre comme avant. Aujourd'hui, des années plus tard, avec l'aide de Dieu, mon Église puis des gens qui m'entourent, je suis plus le même. Je suis heureux, j'ai découvert le vrai sens de la vie. J'ai découvert un Dieu qui m'aime, qui a un plan pour moi. J'ai une femme merveilleuse, 2 beaux garçons et un bébé en route. quand je pense que j'aurais pu manquer tout ça. Je m'appelle Jonathan Simard et c'est mon histoire.
On peut applaudir. L'histoire de grâce. Applaudissez fort ce matin. Lorsqu'un homme, lorsqu'une femme qui refuse de se retirer, Dieu est capable de changer les situations, de restaurer, de rétablir. Comment vaincre la peur de servir Dieu, de répondre à son appel à nouveau? Je suis résolu de ne pas me retirer à cause de la douleur. Et deuxièmement, ce matin, je regarde aux besoins avec les yeux de Dieu plutôt qu'avec les miens. Le texte nous dit en Matthieu 14 que quand il fut sorti de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion. Lorsqu'il les vit avec les yeux de compassion, lorsqu'il les a vus avec les yeux de miséricorde, qui sont des synonymes dans le Nouveau Testament, dans ce cœur de miséricorde, ces yeux de compassion, que c'est cela qui l'a motivé, c'est cela qui l'a rendu capable, que avec les yeux de compassion, le besoin était plus grand que sa douleur, plus grand que sa peur. Il faut que j'agisse parce que j'ai vu, parce que mes yeux ont vu. Et il y a la force et le courage de traverser la peur malgré la douleur et de servir Dieu et trouver, lorsque nous apprenons à ne pas regarder avec nos yeux, mais de regarder à travers la compassion de Dieu. Je dirais de cette façon, c'est ça, c'est une grande différence, les yeux de compassion et de miséricorde, c'est l'essence même de la vie chrétienne, et c'est une grande différence entre visiter le temple de Dieu une fois par semaine et devenir quelqu'un qui vit comme étant le temple de Dieu. La parole de Dieu nous dit, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Que Dieu, le plan de Dieu n'est pas seulement la limite de la vie chrétienne, c'est pas que je viens au temple une fois par semaine, mais ma vie demeure la même année après année. Le cœur de Dieu, le désir de Dieu, c'est que ma vie devienne un temple pour Dieu. Que ma vie devienne un lieu où il habite. Que ma vie devienne le lieu où son cœur se manifeste. Où je suis transformé par le renouvellement de mes pensées. Et où je vois comme lui, je pense comme lui, j'agis comme lui. Et où la compassion et la miséricorde de Dieu habitent dans le temple que je suis devenu. Combien d'entre vous savez qu'on n'est pas seulement appelé à venir au temple, on est appelé à vivre comme le temple de Dieu et à vivre sa miséricorde. Cette dimension de la miséricorde de Dieu, les yeux de compassion, visiter le temple de Dieu, la limite de cela, mais le sans limite de vivre comme étant le temple de Dieu. Et lorsque Dieu, dans la parole de Dieu, dans les Écritures, donnait son plan pour le temple, que ce soit la construction du temple, ou que ce soit le tabernacle, il y avait toujours cette dimension de « fais une place à ma miséricorde ». Faites une place de choix à ma miséricorde. Et il y a toujours cette miséricorde au centre qui se manifeste par des actions. Il y a de la consolation, de la force, il y a la gloire de Dieu lorsque la miséricorde remplit mon cœur. Et pour moi, ce cœur de miséricorde, c'est l'essence même de ce que nous sommes appelés à être. Être un chrétien, c'est pas avoir appris une nouvelle série de lois ou de règlements. Être un chrétien, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu en nous qui écrit sa miséricorde. Et la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, c'est une manière totalement différente de voir la vie et de voir les personnes. Et c'est ça qui fait que des gens s'impliquent. C'est ça qui fait que des gens se donnent. C'est ça qui fait que la semaine dernière, lorsque j'ai fait la première partie de ce message, il y a 150 personnes qui ont rempli ce feuillet jaune pour dire « Oui, je veux servir les enfants, je veux servir dans les pouponnières, je veux servir dans l'Action Nouvelle Vie. Oui, je veux, car Dieu a tellement aimé qu'il a donné. » Et ceux qui sont remplis de l'Esprit ont miséricorde, voient les besoins et au-delà de leurs propres besoins, veulent se donner. Ce matin, vous pouvez aussi, je vous encourage, à la fin du message, à répondre. Il y a des gens qui vont à l'arrière avec un panier, vous leur remettez cela en sortant. C'est pas pour tout de suite, c'est pas pour l'été. On va à vous appeler pendant l'été, c'est des gens qui vont être on va avoir des formations qui vont vous être offertes pour cet automne et il y a toute une moisson d'hommes et de femmes qui peuvent répondre à l'appel de Dieu et ça commence par cette miséricorde et la miséricorde de Dieu, vivre comme un chrétien, avoir un cœur de miséricorde, c'est voir les gens comme Dieu les voit. C'est un cœur qui voit toujours avec une possibilité que la personne ait une autre chance. C'est toujours quelqu'un qui voit les gens comme Dieu nous voit. C'est Dieu qui nous rend capables de regarder aux situations et de voir non pas seulement ce qu'elles sont, mais de voir ce qu'elles peuvent devenir. De regarder les milliers qui arrivent à Action Nouvelle Vie dans le besoin et qui écoutent leurs histoires de douleur, mais ne pas seulement voir l'état dans lequel ils sont en ce moment, mais par la miséricorde de Dieu, j'ai compassion d'eux et qu'est-ce qu'ils pourraient devenir? La miséricorde, c'est un père qui regarde ses enfants, non seulement, et qui regarde son fils ou sa fille, non seulement pour la chambre, avec les vêtements qui sont trois pieds de haut, des petites bébites qui courent à terre avec des morceaux de peanut. Non, qui regarde pas seulement la chambre et son fils pour qu'est-ce qu'elle est là, mais à travers les yeux de Dieu, je le vois pour ce qu'il peut devenir. La miséricorde de Dieu, c'est une attitude qui voit le bien, qui voit ce qui peut arriver, qui voit ce qui peut changer, qui est pas tuable et qui arrête jamais de croire qu'une situation peut toujours être mieux et qu'elle peut être renversée à travers la miséricorde de Dieu. Que comme Dieu a une miséricorde de moi, il est capable de le faire aux autres. Vous devriez dire amen avant que j'explose ce matin. La miséricorde de Dieu, lorsque Dieu a dit « Tu vas bâtir mon temple », il a donné ses instructions, puis il a dit « Faites une place à la miséricorde ». Dans 1 Chronique, chapitre 28, il dit, et c'est magnifique parce que c'est un père qui reçoit de Dieu les instructions et qui les donne à son fils. Alors qu'il les donne, alors que les instructions sont données, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Que le cœur pour Dieu va toujours se produire un service, va vouloir servir, va vouloir se donner. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Verset 10, la diapo 12. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison et qu'il serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. La version anglaise dit be strong and just do it. Dans l'hébreu, ça dit littéralement tu vas être fortifié lorsque tu vas te mettre à obéir et à agir. J'aimerais dire ce matin que just do it n'a pas été inventé par Nike, c'était déjà dans le cœur de Dieu il y a des millénaires. Que lorsque il y a un secret, qu'alors que je me mets en action, alors que je sers d'autres, il y a une délivrance pour moi, il y a une guérison pour moi, il y a une action de Dieu qui prend place, et une action qui est fondée dans la miséricorde, dans la compassion, dans le cœur pour les autres. La miséricorde de Dieu, toujours dans le même texte, au verset 11 à diapo 13, il dit, David donna à Salomon son fils le modèle pour toutes les choses dans le temple, portique, bâtiment, les chambres du trésor, les chambres de prière et de sacrifice, du modèle de poids, la mesure qui devrait être donnée à chaque chose. C'est magnifique la pensée que comme père, nous sommes appelés chacun d'entre nous, c'est à long terme. Puis on le fait toujours imparfaitement. Et souvent, on donne nous-mêmes un mauvais exemple à nos fils et à nos filles. Souvent, on doit se repentir nous-mêmes pour les erreurs qu'on a faites. Mais je veux vous appeler ce matin à ne pas abandonner votre appel. Chaque père qui est ici, comme moi, je suis appelé, vous êtes appelé à enseigner à nos fils et à nos filles la vraie mesure des choses. C'est quoi qui est important? C'est quoi qui devrait être important dans la vie? C'est quoi qui a une vraie mesure? C'est quoi qui a vraiment du poids? C'est quoi vraiment qui compte? Quelles sont les valeurs qui comptent? Quelles sont les valeurs sur lesquelles, mon fils, ma fille, tu peux bâtir ta vie? Et dans cette direction de Dieu, et le texte nous dit que c'était le Saint-Esprit qui avait donné ça à David, il dira, pour son fils, il dira littéralement, il devrait être donné à chaque chose la place qu'il devrait accorder et la place qu'il devrait accorder au siège de la miséricorde. The mercy seat. Le mercy seat, en français, souvent, c'est traduit propitiatoire. Et c'était littéralement, dans l'hébreu, caporette, qui veut dire miséricorde, qui veut dire, c'était comme un couvert. Il y avait le temple de Dieu, il y avait le lieu très saint où tu avais l'arche de la présence de Dieu, et il y avait ce couvert qui était en or, qui était là. Et la signification, c'est le pardon de Dieu qui couvre nos fautes. Et une fois par an, le sacrificateur venait et il offrait un agneau parfait. Et lorsque le sang coulait sur le caporette, sur le siège de la miséricorde, ça représentait la grâce, le pardon de Dieu. Ça représentait Dieu qui dit, je sais dans quel état tu es en ce moment, mais je t'aime tellement que je donne mon Fils unique et les êtres humains peuvent marcher à chaque jour en recevant non pas ce qu'ils méritent, mais le pardon et la grâce et la puissance de Dieu. Quelqu'un devrait dire amen. Cette dimension il a dit, mets-le au centre, mets-le, heureux celui à qui la dette est effacée, nous dit le psaume 32. Et le péché est couvert, caporin. Et le lieu très saint sera appelé la maison de la miséricorde. Et le portrait, il a dit à Moïse, tu feras un siège, dans Exode 37, on parle du temple, on parle du tabernacle, la miséricorde qui est au centre. Il dit, fais un siège de miséricorde d'or pur. Puis, deux chérubins d'or pur de chaque côté du siège de la miséricorde, l'un en face de l'autre, avec leurs ailes étendues par-dessus, couvrant le propitiatoire ou le siège de la miséricorde, le couvert de la miséricorde en or pur. Ils regarderont l'un vers l'autre avec leurs faces toujours tournées ou leurs yeux toujours tournés vers le siège de la miséricorde. Une espèce d'image extrêmement importante dans le, il a dit, voici les instructions. Tu vas avoir ce couvert en or. Tu vas avoir ce siège de la miséricorde où le sacrifice va être offert. Et tu vas mettre deux anges qui vont être là. Et là, c'est moi, j'ai besoin de deux anges pour illustrer ça. J'aurais besoin de deux anges. Je vais demander à Guylaine de venir. Viens, Guylaine. Et Isabelle. Isabelle, viens. Belle, viens. J'ai besoin de deux anges. Je vais prendre deux secondes. J'ai besoin de deux anges. Venez. Et à la première réunion, ils étaient tout aussi enthousiastes. Alors, j'aimerais inviter les deux anges à s'approcher. Venez, les deux anges. Venez, marchons, en passant par là, ça va être moins difficile pour les marches. Et vu qu'ils ont l'air si enthousiastes, voulez-vous applaudir fort les deux anges qui s'approchent? Et les deux serges qui sont mariés à ces deux anges disent « Amen » que c'est vraiment deux anges. Ça manquait un petit peu de punch, mais bon, on va y aller avec ça. Alors, un ange de ce côté-ci, you gonna get me for this? Un ange de ce côté-ci vient de l'autre côté, Guylaine. Un ange de ce côté-là, face à face, la Bible nous dit. Et il y avait le siège de la miséricorde, couvert d'or, là où le sacrifice était offert. Et la Bible nous dit, tu mettras deux anges face à face et deux anges avec leurs ailes. Je demande aux deux anges d'étendre leurs ailes. Étendez vos ailes, s'il vous plaît. Vers le haut. Et les ailes qui se rejoignaient. Est-ce que ça va? Restez comme ça, quelques instants. Le plus haut possible, ça va? Les deux anges, écoutez bien ceci, c'est pas une contradiction dans le texte. La Bible nous dit, et Dieu dit, c'est là que j'habite. Moi, là, ma présence est là. C'est là que j'habite. Il dira plus tard, vous amènerez le livre du témoignage là. Parce que c'est là que les témoignages sont écrits lorsque mon Église est habitée d'un esprit de miséricorde. C'est là que les grandes histoires vont s'écrire. Quelqu'un devrait dire Amen. Mais alors que les deux anges, il y a quelque chose d'intéressant. La Bible nous dit qu'ils seront face à face. Alors, je sais pas les filles, ils seront face à face. Mais que leurs yeux sera toujours sur le siège de la miséricorde. Ils sont face à face, mais leurs yeux ne sont pas l'un sur l'autre. Leurs yeux sont sur la miséricorde. Et c'est Dieu qui dit à chacun d'entre nous, marcher dans la miséricorde de Dieu, c'est d'apprendre à ne pas se regarder, d'avoir les yeux sur les gens, leurs faiblesses, leurs défauts, leurs erreurs, mais de regarder ton frère, ta sœur, ton mari, tes enfants, attendez, ça s'en vient, de regarder ton église, de regarder les gens autour de toi, pas seulement leurs yeux sur eux, mais de les regarder à travers la miséricorde de Dieu. Je les regarde pour ce qu'ils peuvent devenir. Je les regarde en toujours conscient de comment moi j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Je regarde les autres, non pas pour ce qu'ils sont, je ne mets pas mes yeux sur eux, je mets les yeux sur la miséricorde de Dieu qui me permet de voir les gens comme Dieu les voit. Quelqu'un devrait applaudir. Et merci à mes deux anges. Lorsque nous cessons de nous regarder avec les yeux de la miséricorde, c'est là que l'Église perd sa saveur. C'est là qu'elle perd sa vie. C'est là qu'elle perd son essence. Lorsque l'Église chrétienne cesse de mettre ses yeux sur le siège de la miséricorde, où la présence de Dieu demeure. Et les témoignages s'écrit, les témoignages se dessèchent et la présence quitte. Lorsque les gens passent leur vie dans une église à se regarder, à juger, à analyser, à critiquer les personnes, c'est parce qu'ils ont enlevé leurs yeux de sur le siège de la miséricorde. Parce que lorsque tu regardes dans le siège de la miséricorde, tu vois deux choses. Tu vois le sang du Seigneur, tu vois le sang de l'agneau qui m'a... Et tu vois aussi un miroir d'à quel point, à chaque jour, toi aussi, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Je dirais même de cette façon, lorsque les gens arrêtent de regarder au siège de la miséricorde, ils sont capables de critiquer n'importe qui. Ils vont même mettre des cornes sur la tête de Moïse. Il n'y a pas eu aucun amen. Ça a l'air d'avoir besoin d'une certaine explication. D'accord, je vais vous expliquer ça. J'ai appris à travers l'histoire, j'étais fasciné de découvrir, ça va apparaître à l'écran. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà vu ces œuvres d'art de Michelangelo, Michelangelo, c'est des œuvres réelles. À l'époque, Michelangelo a fait des peintures, Michel-Ange a fait des sculptures de Moïse, puis c'était toujours avec des cornes. Est-ce que vous voyez les cornes? Toujours avec des cornes. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'à l'époque, son information, le message qu'il a reçu, lui était donné, les ordres qu'il recevait, étaient de l'Église à l'époque, l'Église officielle, qui utilisait une Bible vulgate, qui était une Bible qui traduisait les Écritures en latin. Et souvent, dans cette Bible vulgate, il y avait plusieurs traductions de l'hébreu au latin, où les mots changeaient complètement, où ils ont complètement manqué le sens. Et un des textes qu'ils ont vraiment manqué, c'est dans l'Exode chapitre 34, ils ont mal interprété le mot 40 dans l'hébreu, et le texte qui dit « Et Moïse descendit de la montagne avec la gloire sur sa tête » a été interprété, parce que souvent dans l'hébreu, la connotation, les mots sont les syllabes, sont presque les mêmes, les lettres sont presque les mêmes, mais c'est le contexte qui dicte à quelle utilisation utilisation tu devrais en faire. C'est quand tu regardes dans l'ensemble que tu vois à quelle utilisation tu devrais en faire. Et ils ont traduit littéralement, et Moïse descendit dans la montagne, au lieu de dire « avec la gloire sur sa tête », ils ont traduit Moïse à Vulgate. Si vous avez cherché une Bible Vulgate du latin, disait « et Moïse a descendu de la montagne avec des cornes sur sa tête ». Et pendant des siècles, c'était répandu, c'était dit, c'était communiqué. Première chose que je dois clarifier, dites à la personne près de vous, Moïse n'avait pas de cornes sur sa tête. Dites ça à la personne près de vous. Très important. Mais le point est celui-ci. Le point est celui-ci. Si tu enlèves tes yeux du siège de la miséricorde, c'est ça qui arrive à des chrétiens. Se mettre sur un oui-dire, sur une histoire, sur un jugement, sur une mauvaise interprétation, sur toutes sortes de choses, se mettre à mettre des cornes sur les gens. Les maris qui mettent tout ce qu'ils voient, si tu ne regardes pas à travers le siège de la miséricorde, tout ce que tu vois de ton épouse, tout ce que tu commences à voir, c'est les cornes. Tout ce qu'elle n'est pas, tout ce qu'elle ne devrait pas, tout ce qu'elle doit. Il y a beaucoup d'épouses qui sont ici en cette fête des pères, que sans cette grâce de Dieu, que vous regardiez à votre mari et à votre papa, au papa, au père de vos enfants, à travers le siège de la miséricorde, à moins que vous ne le fassiez, vous allez voir des cornes. Vous allez voir tout ce qu'il n'est pas, tout ce que vous voudriez qu'il soit, qu'il n'est pas. C'est comme ça que des chrétiens regardent à d'autres. C'est comme ça que des chrétiens arrêtent de s'impliquer. C'est comme ça que des chrétiens cessent totalement de servir Dieu. Ah, l'Église, et si tu ne regardes pas l'Église à travers le siège de la miséricorde, tu regardes juste les gens. Tu vois leurs défauts, tu vois leurs faiblesses, tu vois ce qui t'a déçu et tu arrêtes de servir toi-même. J'aimerais déclarer un mouvement de décornage dans le nom de Jésus. Mets tes yeux dans le siège de la miséricorde et tu vas voir les gens comme Dieu les voit. Imparfaits, mais moi aussi imparfait. Et on a tous besoin de la grâce de Dieu. Quelqu'un devrait dire amen et applaudir avec moi. Pendant que les musiciens s'approchent, la place de la miséricorde dans nos vies, il y a cette bénédiction du plus grand message de tous les temps. Et les bénédictions qu'on veut tous dans les béatitudes de Matthieu 5, ils posséderont le royaume de Dieu, c'est ce qu'on veut. Ils seront comblés, c'est ce qu'on veut. Ils hériteront la terre, ils seront rassasiés. Ils verront Dieu, la diapo 17. Ils seront appelés fils de Dieu. Ils recevront une grande récompense, c'est ce qu'on veut. Et tout cela est conditionnel au centre. Faites la place à la miséricorde, parce que le centre des béatitudes qui va apparaître à l'écran, c'est « ils heureux ceux qui seront miséricordieux ». Et qui obtiendront la miséricorde. Dieu a dit, mettez le siège de la miséricorde si tu veux avoir un témoignage, si tu veux que ma présence vienne, si tu veux que la vie soit là. Jésus dit, si tu veux ces bénédictions, mets la miséricorde, car Dieu t'a fait connaître, Michée 6-8, Dieu t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que Dieu demande de toi. Ce n'est pas secret, ce n'est pas mystérieux. Voici ce qu'il demande de toi, que tu pratiques la justice, que tu marches humblement avec ton Dieu. Puis si vous arrêtez là, suivez-moi bien, si vous arrêtez là, vous pouvez avoir presque une définition des pharisiens du Nouveau Testament, qui étaient des experts dans la justice et qui appliquaient la justice de manière légaliste et qui avaient une attitude doucereuse de fausse humilité. Mais le texte dit, si tu veux savoir ce que Dieu veut de toi, on va mettre le milieu qui va apparaître au centre. Oui, il y a une recherche de la justice, et oui, tu vas marcher avec humilité, mais il faut que tu aimes la miséricorde. Et l'Église perd son nom, perd son identité lorsqu'elle devient une place où tout le monde connaît la justice, et tout le monde connaît les lois, et est capable de les appliquer aux autres en marchant avec une grande humilité. Non, et si tu as perdu le cœur de miséricorde, où tu aimes ceux qui souffrent, et tu veux les relever, et tu les juges pas, et tu sais que toi-même, t'as tellement eu besoin de miséricorde qu'il faut que tu la donnes aux autres. C'est là que l'onction vient, le témoignage vient, la présence vient, et c'est là que ce qui est mort va retrouver la vie. Vous devriez dire amen. Il y avait dans Jean chapitre 5 la piscine, la piscine de Bethesda qu'on appelle. Le mot veut dire littéralement Bethesda, la maison de la miséricorde. Et près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui veut dire la maison de la miséricorde, avec 5 portiques. Et sur ces portiques étaient couchés en grand nombre des gens, des aveugles, des malades, des boiteux, des paralytiques. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Le verset 5 nous dit, il y avait un homme qui était là malade depuis 38 ans. Et l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me porter dans la piscine. Un homme malade. Plusieurs théologiens disent les 5 portiques, c'est les 5 hommes dons. Pasteur, évangéliste, docteur, prophète, enseignants qui sont là, et tout au service du corps de Christ. Et le portrait est assez saisissant. il y a tous ces porteaux qui étaient remplis de gens qui souffrent, de gens malades, de gens dans la douleur. Puis il y avait une maison de miséricorde où la puissance de Dieu coulait à flot. Jésus dit à un homme, « Veux-tu être guéri? Il y a 38 ans que tu es là. » Il dit, « Oui, Seigneur, je voudrais être guéri, mais il n'y a personne. J'ai besoin de quelqu'un pour me porter dans la maison de la miséricorde. » Et c'est le désir et l'intention et le plan et la façon et les desseins de Dieu que le miraculeux va toujours prendre place dans un partenariat où Dieu appelle des hommes et des femmes à porter des gens là où la maison de miséricorde goûte au surnaturel. Dieu dit, il y a tout ce miraculeux qui est là, il y a tous ces gens qui souffrent partout autour de nous, et j'appelle des gens qui vont accepter de faire des choses qui semblent très terre-à-terre, qui semblent non spirituelles. Je vais aller dans les pouponnières, je vais aller aider, je vais être placeur, je vais servir la communion, je vais aller à Action Nouvelle Vie, je vais être caméraman, je vais être PowerPoint, je vais servir d'un côté ou de l'autre dans des choses qui semblent terre-à-terre. Les disciples se mirent à distribuer de la nourriture, se mirent à distribuer les poissons eux-mêmes. Ils les donnèrent aux disciples qui les distribuèrent, le texte que nous avons lu ce matin. Lorsque tu distribues les poissons et que 5000 sont nourris, à la fin, tu sens le poisson. C'était des apôtres, c'était des gens qui étaient des hommes qui étaient appelés à secouer les nations, à être les apôtres. Ils avaient reçu l'onction, nous serons les leaders de l'Église qui touchera le monde. Et Jésus dit, c'est super les gars, roule tes manches, mets-toi les mains dedans. Un jour, j'étais à pêche avec mon fils en Californie, puis on a passé une journée à manipuler du poisson toute la journée, on pêchait, on ramassait nos poissons. On a une journée extraordinaire. Puis on arrive à la maison, et nous autres, on a passé la journée ensemble, on s'en est pas aperçu. Mais on est arrivé à la maison, et au condo où on était, et Chantal a dit, on est rentré dans la maison, c'était dégueulasse. On sentait tellement le poisson. Elle a pris tous nos vêtements, elle a tout enlevé dans un sac, écrasé, fumigé, tué, brûlé, radioactivé. C'était juste, on puait, on sentait le poisson. L'Église du Nouveau Testament, les miracles sont venus lorsque les grands appelés ont accepté de se mettre les mains dedans, lorsqu'on a accepté de prendre notre ami et de l'amener dans la maison du miraculeux, lorsque le cœur de miséricorde me touche et que je commence à agir. Quelqu'un, je prêche mieux que vous dites Amen ce matin. Quelqu'un devrait dire Amen et applaudir le Dieu de la miséricorde. Je vais terminer avec ceci. Exode 25 nous dit, tu feras une place au propitiatoire. Exode 25 et nombre 17. Et entre les chérubins, Nadia pour 22. Et entre les chérubins face à face, les anges, dont les yeux sont tournés vers la miséricorde. C'est là que tu placeras l'arche du témoignage. C'est là qu'il y a une histoire qui va s'écrire dans ta vie. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Et c'est là que le bâton desséché d'Aaron refleurira. Ils ont amené dans l'arche. Lorsque ce qui est desséché touche la miséricorde, il va avoir un fruit à nouveau. J'aimerais dire à chaque église et dénomination qui écoute ce message, et leaders d'église et leaders dénominationnels qui écoutent ce message, si tu veux voir du fruit à nouveau, prêche la miséricorde, vis la miséricorde, appelle le peuple à aller vers ceux qui souffrent. Parce que lorsque ce qui était sec, le bâton d'Aaron était sec, quel miracle. Ils ont pris le bâton d'Aaron, c'était une relique d'exploit passé. Lorsqu'il te reste juste le bâton sec et tu le fais toucher à nouveau à la miséricorde, il y a un fruit qui va émerger, il y a un témoignage. Et Dieu dit, c'est là que tu vas me rencontrer, c'est là que tu vas goûter à ma présence. Je vais terminer pour les papas avec un témoignage que j'ai reçu il y a 3 ou 4 mois. J'ai demandé à ce frère la permission, à lui et à son père, de lire ce témoignage. Les deux ont donné, ont envoyé un email disant « Oui, ça nous fait plaisir que vous lisiez le témoignage ». C'est un témoignage plus long que j'ai raccourci un peu, mais qui était magnifique. Un homme qui m'écrit, qui dit « Cher Pasteur Claude, je vous écris pour vous partager mon témoignage ». Pendant qu'on se préparait à aller dans l'adoration ensemble, on va dire au Seigneur dans quelques instants, on va dire « Je lève ma voix en ton honneur » et on va dire « Seigneur, je me donne à toi de tout mon cœur ». Et le témoignage dit ceci, cher Pasteur Claude, je vous écris pour vous partager mon témoignage. J'ai 28 ans, je suis ingénieur, marié avec 2 beaux enfants et une épouse merveilleuse. Mais pourtant, j'étais pas heureux, j'étais même misérable. J'ai grandi dans une maison où mon père parlait toujours en mal des églises où nous allions. Je me souviens de m'être souvent demandé pourquoi il nous amenait à chaque semaine dans des églises où c'était si mauvais selon lui. Mon père critiquait tout. L'église, les pasteurs, les sermons, la musique, les diacres, les gens, les femmes, et les enfants des dirigeants, tout le monde y passait. J'ai 4 frères et sœurs et les 5 enfants n'ont jamais continué dans le Seigneur une fois ado. On changeait tout le temps d'église, mon père n'en trouvait aucune correcte. J'ai grandi avec cette pensée et je ne voulais rien savoir des églises. En 2005, ma mère a commencé à venir à Nouvelle Vie seule. Elle a été touchée et transformée et a commencé à nous en parler. Mon père lui a continué avec toutes ses opinions et critiques alors qu'il n'avait même jamais mis les pieds à notre église. Ma mère nous parlait des messages qui la touchaient, des œuvres humanitaires, des réunions de prière, de la jeunesse, du ministère des femmes qui la bénissaient beaucoup et surtout de l'amour. Elle nous disait toujours comment il y avait de l'amour dans l'église. Je ne lui montrais pas, mais je l'écoutais, car j'avais un vide terrible en moi et des problèmes dans mon mariage. Je suis venu à Nouvelle-Vie pour la première fois en 2006 à Pâques et j'ai été bouleversé. Dieu m'attendait. Le message était pour moi. J'ai donné ma vie au Seigneur et mon épouse aussi. Dans les semaines et mois qui ont suivi, notre mariage s'est mis à aller mieux. J'ai commencé à m'impliquer comme placeur. Ma femme aide dans les pouponnières et nous venons comme bénévoles pour Action Nouvelle Vie pour les paniers de Noël. C'est extraordinaire. On aime Dieu et on aime notre Église. Le plus beau, c'est que deux de mes frères et ma sœur ont commencé à venir à Nouvelle Vie eux aussi. J'ai un frère qui résiste. Mais il écoute vos messages sur Internet et il m'en parle tout le temps. Je vous le dis, c'est une question de temps. Voulez-vous dire amen? Il écrit, le top pour moi est arrivé à Noël 2008. Mon père est venu à Nouvelle Vie pour la première fois. Il a maintenant 77 ans et il est très malade. Et il a pleuré du début à la fin. Il vient avec nous à chaque semaine depuis le début 2009. Puis j'ai trouvé tellement bénissant cette section. Il a dit, et on a fait un pacte de non-critique. Voulez-vous dire à la personne à côté de vous, pas de cornes à l'église Nouvelle-Vie. Dites ça à la personne à côté de vous. On a fait un pacte de non-critique. Il y a 3 semaines, mon papa pleurait dans l'auto. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, papa? Il m'a dit, quand je pense à toutes les années que j'ai perdues. Je l'ai consolé et encouragé, mais j'ai aussi dit à Dieu, je ne veux pas perdre de temps. Je veux te servir de tout mon cœur et c'est ça que je veux donner à mon garçon et à ma fille. Je vous appelle à refuser de vous retirer malgré la douleur. Et je vous appelle à dire, Seigneur, remplis-moi du cœur de miséricorde, que je vois tout ce qui est autour de moi comme toi tu veux que je le vois. Je veux mettre la miséricorde et la compassion au cœur de ma vie et me mettre à servir selon le cœur que tu vas me donner. Et j'ai confiance que le bâton va refleurir à nouveau et qu'il y a un livre de témoignages qui va s'ouvrir pour moi et que ceux qui le veulent avec moi disent un dernier grand amen ce matin à l'église Nouvelle Vie et applaudissez avec moi. Applaudissez avec moi ce que Dieu va faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble en sa présence? Voici ce que je voudrais qu'on fasse ce matin. Je veux vous remercier du temps, de l'extraordinaire attention que vous apportez à la parole de Dieu. J'aimerais maintenant solennellement demander à tous les papas de s'avancer. Tous les pères, j'aimerais que vous veniez ici à l'avant. Mais lorsqu'ils s'avancent, je veux qu'on les applaudisse, qu'il y ait une ovation tout le long, que les hommes s'avancent, que les hommes, les papas, les grands-parents s'avancent. Les hommes, voulez-vous, arrêtez pas d'applaudir. Ils le font pour un joueur de hockey. Ils le font pour un artiste. Nous allons applaudir les pères alors qu'ils s'avancent. Venez, messieurs. Tous les papas, venez. Tous les papas, venez. Tous les papas, venez. Approchez-vous tout proche, faire la place à tous les pères qui s'en viennent derrière vous. Allez, lâchez pas de les applaudir. Lâchez pas de leur dire ce que tu fais est important. Qui tu es est important. Applaudissez les papas. Applaudissez les pères. Applaudissez les pères de tout votre cœur. Alléluia. Venez, 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 on vous attend. Venez, 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 les pères. Alléluia. Alléluia. J'aimerais demander à l'Assemblée d'étendre les mains vers eux. J'aimerais demander à tous ces pères de tourner leur cœur vers Dieu en ce moment. Et je veux te défier. Moi, ce matin, je suis debout avec toi. Je suis debout parmi vous. Vous êtes mes frères et je suis un père. Je ne suis pas, en ces minutes, en ce moment, je ne vous parle pas comme votre pasteur. Je vous parle comme un père debout avec vous. Je vais vous demander, vous défier, vous inviter à prier cette prière avec moi, à commencer à parler à Dieu, parce que voici ce que je veux lui dire ce matin, si vous le voulez, voulez-vous le dire avec moi, dans vos cœurs, de dire au Seigneur, Seigneur, je veux m'engager, je ne me retirerai pas malgré la douleur. Commencez à dire, Seigneur, je ne lâcherai pas. Seigneur, je ne me retirerai pas malgré la mauvaise nouvelle. Je ne serai pas un Absalom qui se ferme à tout le monde et qui se bâtit un monument pour lui-même. Seigneur, mon Dieu, aide-moi. Seigneur, mon Dieu, aide-moi. Tous les pères qui sont dans ce lieu, dites, je ne me retirerai pas. Je demande à toute l'Assemblée d'étendre vos mains vers eux. Je demande à tous les pères qui se sont avancés dans une confrérie de pères et de frères. Voulez-vous mettre votre bras autour de l'épaule d'un homme à côté de vous, partout à travers ce lieu, c'est à l'avant, commencer à prier pour le frère à gauche et le frère à droite, puis dire, Seigneur, aide-le. Je ne veux pas me retirer, Seigneur, et je te demande de m'aider. Je te demande de m'aider, Seigneur, à voir. Je ne veux pas, Seigneur, voir. Voir avec des cornes. Je veux voir, Seigneur, comme toi tu vois. Je veux faire une plus grande place à la miséricorde dans ma vie.
Je veux faire plus grande place à la patience, une plus grande place, Seigneur. Et même quand j'ai peur, même lorsque la tempête est forte, j'entends ta voix, puis je resterai pas dans la barque. Je resterai pas dans la barque, Seigneur, loin de toi. Je veux aller vers toi, même si j'ai peur, puis même si des fois je coule un peu, ta main est là. Et aide-moi à me voir, moi, avec miséricorde. Je prie pour mes frères qui n'acceptent pas de condamnation, qu'ils se voient comme tu les vois à travers ta miséricorde, qu'ils regardent leurs épouses avec ta miséricorde, leurs enfants avec ta miséricorde, leur avenir et leur Dieu, Seigneur, qui sont, on se donne à toi. J'élève ma voix, mon Dieu, en ton honneur. J'élève ma voix en ton honneur. Et je te loue et je t'adore, mon Dieu, de tout mon cœur. Oh, je te loue et je t'adore.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.